Pour moi, c'est un thème qui est assez proche des thèmes qu'on a déjà traités.
Il y a
déjà des choses de fait. Donc, il faut effectivement le démarquer de ça.
Sur la façon de se représenter aussi, sur les représentations.
Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par Mythe de la caverne sur le numéro 1, parce que c'est déjà des choses qu'on a évoquées. Donc, et j'ai trouvé que le commentaire que j'ai déniché sur le mythe de la caverne est assez explicite. Tu vois, il y a le dessin, il y a le texte qui est lu. Enfin.
Parce que le truc là.
Alors après, le deuxième point, c'est juste.
Le problème, c'est que c'est difficile. C'est des notions qui sont difficiles.
C'est extrêmement difficile.
Ouais, franchement.
Il y a une idée que je voudrais faire passer.
Les mots et les choses, c'est difficile. Hein.
Alors les mots et les choses, oui, mais les mots et les choses, on peut l'aborder que par l'aspect analyse du tableau des minutes, si on en parle. C'est-à-dire, ce que je peux faire, c'est amener un dessin ou une reproduction du tableau des minutes et expliquer quel est l'intérêt de ce tableau par rapport au sujet. De montrer que si on ne fait que regarder le tableau comme ça, il faut absolument rentrer dans l'interprétation pour y comprendre quelque chose, sinon on voit rien. On voit bien un beau tableau, on peut dire ah oui c'est beau, c'est bien traité.
Tu crois que Velázquez, enfin, moi c'est toujours par rapport à la déconstruction qui
peut
s'opérer comme ça sur des concepts, sur des œuvres d'art. Je pose toujours la question, mais lui, il interprète ça.
Je ne sais pas ce que vous voulez dans l'assiette.
Tu vois, il interprète comme ça. Mais est-ce que
la
Il y a des écrits de Velázquez.
Mais bien entendu, on sait que c'est comme ça que c'était fait. Il n'y a pas que lui qui faisait comme ça à l'époque. Les tableaux dans les tableaux, c'est tout un courant de peinture de l'époque.
C'est-à-dire que c'est sûr qu'on...
Ah, c'est certain. De même que si tu lis les commentaires de, je sais pas moi, de Kandinsky, par exemple, il explique toute sa peinture concernant si j'ai une école. C'est clair. C'est pas fait par hasard. Le point d'interrogation est dans ce sens-là, parce que dans le sens, c'est autrement, il t'explique tout. Et pourtant, on est dans le moderne. On est dans le contemporain. Merci bien. On n'est pas dans le figuratif. Le figuratif, c'est encore plus facile à expliquer.
Oui, mais à la limite, peut-être que la façon d'élaborer un tableau est qu'une interprétation de l'artiste. Est-ce que toi, tu es forcé de suivre son interprétation?
C'est tout le problème de l'entendement, justement. C'est pas seulement l'art. Quand quelqu'un te parle, est-ce que tu es obligé de comprendre ce qu'il dit ou bien tu comprends ce que tu veux? C'est un truc qui est au mi-chemin de tout ça, mais l'artiste, lui, quand il te parle...
La première traduction, c'est la parole. Déjà, traduire sa propre pensée, avec précision, c'est pas un exercice facile.
Pas tellement.
Alors, évidemment, quand il s'agit de la traduction de l'idée de quelqu'un d'autre, ça devient encore plus complexe.
Ouais.
Mais la première traduction, c'est celle-là, d'ailleurs, c'est prendre la parole.
Mais c'est bien le problème de l'intentionnalité, c'est qu'en fait, on ne prend, disons, globalement, quand on parle, c'est parce qu'on a quelque chose à dire. Il arrive qu'on parle, qu'on n'a rien à dire. Non, mais ça c'est moins intéressant. Mais quand on parle, c'est qu'on a une intention. On ne parle pas sans intention. Et même quand on se tait, c'est une manière de parler, puisque c'est aussi intentionnel.
L'intention, ça peut aussi être d'être entendu.
Oui, ça peut déjà être ça. Oui.
Exprimer sa pensée, c'est pas un exercice facile. D'ailleurs, la vie a été inventée pour ça,
Tu vas comme ça ou
très bien. Pour tourner les choses et essayer de...
Mais par exemple, Mignac, il dit un truc intéressant. Il dit là-dessus que, en fait, on ne parle pas seulement pour, dire quelque chose, en tout cas, pour communiquer un message. Enfin, en tout cas, le message, il serait complètement en dehors de ce qui est dit. Tu vois, par exemple, quand tu parles à des gens, tu vas dire bonjour, comment ça va? Il fait beau aujourd'hui. En fait, on n'a rien à foutre du temps, c'est pas pour parler du temps. C'est simplement le langage, c'est ça qu'il dit. Voilà, je te reconnais, toi en tant qu'autre, je te reconnais. Tu es là, tu existes. Mais l'intentionnalité.
C'est de prendre contact, c'est de commencer un échange.
Donc là, la traduction, elle se fait avec des codes sociaux en fait. Tu sais que quand on dit ça.
D'où la difficulté quand on a affaire à des cultures différentes.
Oui, voilà.
On peut se tromper.
Voilà, on peut tout à fait se tromper. Et l'importance du malentendu aussi. En fait, le malentendu est vachement créateur parce qu'il te, il te fait aller dans.
Et quelquefois, ça dans des domaines de conflit aussi.
Oui. Mais il n'est pas que conflit, il n'est pas un source de conflit. Entendu, c'est aussi ce qui fait que tu t'échappes de ce qui, aurait dû être compris pour créer autre sens ou créer du sens. En fait, par exemple, en science, tu as eu des malentendus qui ont été créateurs de, d'autres théories.
Il y a aussi ça, mais il y a aussi des malentendus qui sont très différents les uns des autres. Un quiproquo, c'est une forme de malentendu, mais c'est différent que d'un malentendu sur une phrase à double sens, par exemple.
Merci.
Le deuxième point que j'avais noté, moi, après le mythe de la caverne, c'était un truc un petit peu simpliste et rigolo pour commencer. C'était le petit ours brun. Tu l'as vu, non?
Non, je n'ai pas compris.
Pas compris. Ben, le petit ours brun, la chanson, c'est petit ours brun, il aime bien son papa, sa maman et son papa aussi.
Ah oui, et son papa aussi. C'est le « et son papa aussi ».
Oui.
Il veut dire papa que, ou qui montre le rôle du père dans la société.
C'est comme ça que tu l'entends, tu vois.
Oui.
Moi, je pense qu'on peut l'entendre autrement. C'est pour ça qu'il y a donc un malentendu. Le malentendu, c'est qu'il peut aussi dire...
Ah d'accord, son papa aime aussi.
Son papa, il aime aussi sa maman.
Ah oui.
Il n'y a pas que petit ours brun qui aime sa maman,
non,
son papa aussi.
Son papa.
Oui, mais si on voulait dire ça, on ne construirait pas la phrase.
Pourquoi
de cette
manière. Bien sûr que si.
Non, non. On ne construirait pas la phrase de la manière. Si on voulait dire que le papa aimait aussi la maman, on ne construirait pas la phrase de cette manière.
Sûr. C'est pas sûr, parce que je peux vous sortir un petit papier d'enfant, oui, qui mettait j'aime papa et maman aussi. Ah, oui. Et voilà, qu'est-ce que ça voulait dire?
Je peux vous redonner les deux.
Oui, mais elle n'est pas correcte. Elle n'est pas correcte, la phrase.
Ben,
si.
Oui, si. C'est tout à fait correct.
Syntaxiquement, elle
n'est
pas correcte
dans
ce cas-là.
Pourquoi?
Qu'est-ce
que tu lui reproches?
Celui qui est le plus aimé, c'est celui qui est, sans... qui est cité en premier. C'est...
Ah, encore un troisième
sens.
Ah,
pas forcément.
Ah, ben, j'aime papa et maman aussi.
C'est un troisième sens. Ça.
Non, mais bah, là, tu prends le premier sens où c'est l'enfant qui dit qu'il aime maman et papa. Donc, effectivement, dans ce cas-là, puisqu'il cite maman en premier, on le voit. Mais il y a aussi l'autre sens. J'aime maman. Et papa aime maman aussi.
Oui.
Auquel cas, ce que tu
dis. Tu vois, c'est pour ça que tu l'expliques, parce qu'en fait, syntaxiquement, on ne la construirait pas. Pour être clair, on
ne
la construirait pas.
Il y a un dessin qui représente une vieille femme ou une jeune femme, je ne sais pas, qu'on regarde. Et souvent, les gens, ils voient l'un et ils ne voient pas l'autre, et ils refusent. Ils disent, mais c'est comme ça, il n'y a pas de discussion. Je veux dire, la phrase. On aurait pu la comprendre des deux sens.
Et par exemple, tu sais, moi, quand je corrige, je parle de ça, pas dans cette optique-là, mais simplement, par exemple, quand nous, on fait un travail d'expression écrite avec les enfants, tu vois, justement, on dirait que cette phrase-là n'est pas correcte, parce qu'on ne peut pas la, comprendre réellement. Donc,
c'est qu'on ne peut pas la comprendre.
Tu peux lui attribuer deux sens. Ça veut pas dire que tu ne peux pas la comprendre. Tu peux la comprendre en fonction du contexte, par exemple. C'est le contexte. En fait, moi, le centre de tout ça, c'est tout est question d'interprétation. Donc, effectivement, après, c'est comment j'interprète.
J'étais très mauvais en orthographe. J'étais content parce qu'en troisième, j'avais trouvé une phrase où il s'était impossible de décider au niveau de l'orthographe. Donc, j'ai mis ça à mon prof de français. Un saut porte dans un saut. Un saut.
Un saut dans un saut. Le saut du roi dans un saut.
C'est ça.
Le saut trébuche.
Les trois sauts sont.
Les trois sauts.
C'est ça.
Moi,
je connaissais pas, moi, ça.
Ah, c'est rigolo. C'est marrant
de
piéger quelqu'un avec ça.
Moi, ça m'avait amusé parce que j'avais embêté mon prof de français. La vengeance.
En fait, il y a une solution.
C'est les trois sauts. C'est le saut assez fluet qui tombe, en fait.
Il y a une multitude de phrases. Dans le troisième point, j'en ai cité quelques-unes. Il y a, par exemple, des poules du couvent couvent. Où là, tu as l'écriture qui est la même, la prononciation qui est différente. Tu as une ambiguïté. Si jamais tu le lis, par exemple, tu ne sais pas bien. Mais d'autres où l'ambiguïté est encore plus forte, c'est « La belle ferme le voile », c'est le troisième point. Hein. Ou bien « Le cuisinier sale la tranche ». Alors, là, il n'y a rien qui te permet de donner le sens, si ce n'est l'intonation. « La belle ferme le voile », et « La belle ferme le voile ». C'est uniquement l'intonation qui fait la différence.
Le cuisinier... Mais ça, il y a des phrases comme ça où quand c'est la phrase.
Je comprends pas la belle ferme le voile.
Une jeune femme ferme le rideau. La belle ferme le voile. L'autre sens, c'est qu'il y a une ferme qui est devant un arbre, par exemple. Donc on ne voit plus l'arbre parce qu'il y a la ferme devant. Et la belle ferme le voile.
Mais est-ce qu'on dirait une ferme, quelle voile? Tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est que.
Alors, moi j'ai la phrase dans le même sens. Hein, mais
justement,
la belle ferme le cache.
Bon, la belle ferme le cache, voilà.
Le cache.
Oui.
La cache, la cachette, quoi, le cache.
Au lieu de le voile, c'est le cache.
D'accord.
C'est la même chose, c'est
la
même forme.
D'accord.
Okay. Et là, t'as plus
l'ordre. Fermer un cache, ça veut dire quoi?
Non. C'est le cache. Qui...
Oui,
c'est un cache qui était sur les appareils photo. Mais il y a une autre phrase qui est aussi. Et les profs de français ont commencé à rigoler là-dessus, mais la petite brise la glace.
Merci, merci.
Et la question que j'avais dans mes réflexions sur la traduction automatique, je dis on n'est même pas capable de déterminer où est le verbe. Alors comment va-t-on faire une traduction automatique là-dessus?
Parce qu'en informatique, tu as écrit
là-dessus.
Merci.
C'est
ça?
Quoi?
C'est en informatique que tu
as écrit
là-dessus.
J'ai entendu tout à l'heure, Roger a bien écouté le.
En plus.
C'est député. Hein,
ce qui est bien, c'est que tu n'as même pas de culpabilité.
Il y a un député qui a dit.
Oui, oui.
Vous avez entendu Gordon Brown qui a fait une gaffe. Là, il a dit le contraire de ce qu'il voulait dire. Il avait été présenté à une. Des crises, ils avaient discuté, elle avait protesté pour les augmentations, etc. À la fin, il rentre dans sa voiture et puis il avait oublié qu'il avait le micro de la radio accroché. Il dit, mais pourquoi on m'a fait rencontrer cette personne-là? Ça sert à rien, elle ne connaît rien, etc. Et donc tout le monde...
la négociation longue.
C'est terminé. Oui, c'est un peu dur. Oui,
oui, si tu allais chercher là-bas. Non, non, mais c'est pas...
C'est pas grave, parce que ça va se
présenter. Merci.
T'avais envie, hein, d'être...
Que le cadeau, voilà.
Ça peut se discuter. Parfois, j'en suis, j'ai l'impression d'en être une pour Roger. Faudrait peut-être pas m'augmenter mon nombre d'enfants à l'infini. Parce que... J'en ai déjà eu quatre qui a certains autres années. Faudrait pas trop recommencer.
Oui. Donc, il y a déjà des phrases qui sont indécidables. Mais moi aussi, je suis stupéfait des fois dans certains livres. Où la personne commence par mettre un paquet de définitions.
Redoutable.
Oui, c'est ça. Tu te dis après, mais est-ce que je comprends vraiment les définitions qu'il donne? Parce que je veux dire, si c'est tellement complexe déjà, est-ce que.
De mettre les définitions au départ.
Oui,
ouais. C'est le thème que j'avais mis après.
Ouais, l'adulte, peut-être, il peut faire l'effort. Ouais. Mais même, c'est pas pédagogique.
Ouais.
Dans le petit tour, là. Tu vois, les numéros sont dans l'ordre.
Ouais.
Il y avait des tables, après c'est du chinois.
De quoi?
Du chinois. En haut à droite.
Pas
tu vois, c'est ce que dit Jean-Louis, c'est-à-dire que tu as des gens qui donnent des définitions, ou bien quand les notaires ou les avocats utilisent un langage où tout est défini pour eux clairement, pour nous, là où on
Oui, en
vie,
c'est
difficile.
Mais en philo, c'est pareil.
Merci.
Ouais, ouais, ouais.
Non.
Merci.
Beaucoup de sciences humaines, c'est ça.
Tu veux être un père pour moi,
il veut
passer
quelque chose. Je dirais un père.
Un père,
je
dirais
un père.
C'est
pas.
Voilà.
Anne. Ma mère, ça veut peut-être dire abaisse d'un couvent.
Ah, bon, alors là.
Je
te croyais
en abaisse.
Je ne suis pas sûre. Un jour, j'étais petite, on m'a demandé qu'est-ce que tu feras plus tard. J'ai dit, je sais pas, mais je veux pas être bonne sœur.
Bah déjà, ouais, moi je trouve ça pas très mal pour moi.
Alors, est-ce que je voulais que je rouvre du cidre?
Sinon,
sinon j'ai du vin rouge, du vin blanc, du rosé, au frais.
Moi, je bois ce que tu veux.
Moi, le vin rouge. Je préfère du vin rouge.
Alors, je regarde le cidre, parce que le vin rouge, le vin, on va voir après.
D'accord, moi, je m'occupe des deux.
Voilà. C'est gentil.
Je vais lui rincer. Je vais ton verre.
Merci.
Pour l'avoir près de moi au moment où je vais ouvrir.
Donc, en fait, c'est ça. Tu as le... Tu as les mots, la définition, le contexte. Parce que c'est vrai que le contexte est super important, mais merci tout le temps. Tu as social, tu as le contexte.
Ah, oui.
Linguistique, c'est-à-dire les mots qui sont. Voilà, les mots.
En plus,
qui
sont... Si on en a près de nous un petit peu.
Mm-hmm.
J'en ai pas fait beaucoup. J'en ai pas fait beaucoup parce que imprimer en couleur, c'est pas donné, quoi. Merci. Tiens, ben, Sacha, tu peux regarder aussi, parce que tu es là avec nous maintenant.
J'aime
nous
donner quand même. Tu vas voir, tu vas être bon en philo aussi, hein, à force.
Ouais.
Alors, ça, c'est fait.
Dans quelques temps.
La traduction, il y a beaucoup d'aspects. Hein. Il y a les interprètes musicaux, la violoniste, hein, les interprètes.
Il y a les...
Il y a le doublage.
Il y a
multiples aspects.
Alors, je trouve que c'est intéressant parce que souvent on dit oui, mais quand on fait une traduction, on y perd. Je ne suis pas certain qu'on y perd.
Quelquefois, il y en a qui peuvent y gagner.
Mais oui, oui. Des fois, on y gagne.
Et puis, c'était
Un
la vie aussi d'aller chercher les œuvres des autres, enfin les pensées des autres, hein.
De les traduire dans son propre univers en fait.
Oui, ben, s'approprier le sens de quelque chose.
Voilà. En fait, c'est ça comprendre, hein, quelque part.
Oui.
Parce que tu comprends jamais vraiment. Tu comprends jamais les choses telles qu'elles étaient peut-être au départ. Sauf peut-être dans des sciences plus dures. Enfin,
Toutes les sciences ont besoin de vulgarisateurs.
Je disais au départ, oui, la vulgarisation, bien sûr. Mais au départ, déjà, entre ta pensée et ta parole, il y a une perte.
Ouais.
Il y a une perte déjà, au départ.
Alors, qu'est-ce qui en veut du vin rouge ?
C'est Joguette, le mot. C'est
Boileau
qui
faisait l'un. J'en veux, je
te donne
un verre.
Ceux qui sortent pas, les écoles, sinon
clairement, les mots pour le dire viennent de tes aimants.
Merci.
100% d'accord avec ça. Les gens qui t'embrouillent, c'est pas qu'un dans leur tête.
Ah oui.
Qu'est-ce qu'il en veut, tu en veux?
Non, je continue aussi.
Ou alors il faut extraire.
D'accord, donne-moi ton
verre. C'est là que je croyais, moi, qu'il fallait avoir les mots pour avoir une pensée claire, en fait.
Je pense que les deux marchent ensemble.
C'est
faute de langage, tu ne peux pas penser.
Oui, voilà. Si
tu n'as pas un langage, tu ne peux pas penser.
Tu ne peux pas penser si tu n'as pas le langage.
Il faut des mots, bien sûr.
Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'au niveau de la création, en général, on n'a pas une pensée claire. C'est le propre de la création, mais pas vraiment une pensée claire.
Pas du premier coup.
Je ne sais pas ce que je voulais dire avant.
Ça, c'est l'abord.
Ben oui,
c'est intéressant aussi comme idée.
Et la parole, c'est un aller-retour entre ta parole et ta parole. Que tu essaies dans un premier temps de traduire ta pensée, tu n'y arrives pas.
C'est
une boucle.
Non, mais c'est pas ça.
C'est pas
comme
ça. Mais c'est très important d'accepter cette idée-là, sinon tu ne parles pas. Moi, je me souviens très bien dans des groupes en fac, par exemple, en socio, il y en avait un qui s'était révolté en disant « Oui, c'est toujours les mêmes qui prennent la parole, etc. » Moi, le temps que je passe ma phrase dans ma tête et qu'il y a quelqu'un qui... Mais c'est l'article 2, je lui dis « Mais pourquoi faire ta phrase dans ta tête ? Faut dire ce que tu veux dire. » Mais si je ne sais pas ce que je veux dire, « Ben si, ça se clarifiera en disant. »
Ça vient en commençant par... Enfin,
mais oui.
Parfois, oui, c'est en parlant que... En forgeant qu'on devient...
C'est sûr qu'il faut avoir une idée en tête, mais si tu te mets à fabriquer la phrase en ta tête avant de la lire...
Ah oui, tu peux trouver les bonnes formulations.
C'est la meilleure
fois
pour lui qu'il a compris, quoi. Ça ne veut pas dire que
c'est bon
quand même.
Il est bon, hein.
Ah oui, c'est bon.
Partir d'un gars de Marcia, bah oui.
Mais. Ça vient d'où alors cette impression de ne pas pouvoir exprimer
oui.
sa pensée. Enfin, on sent qu'on. En fait, on y arrivera. Pas du premier coup, hein. Ça se fait parfois dans le temps, etc. Mais parfois avec des années. Mais parfois tu as l'impression que tu as l'intuition de quelque chose, mais tu n'as pas les mots pour la formaliser en fait.
Ouais, c'est un peu ce que je disais, entre la création et la formulation, il y a...
Oui, mais c'est beaucoup pour les artistes.
Oui, non, mais la création au sens large du
mot,
hein. Le chercheur, n'importe quoi. L'intuition, c'est une idée qui n'est pas encore très bien. Je crois que, comme elle n'est pas formulée, même simplement dans sa tête, et je l'ai peut-être encore moins formulée.
Moi, ce que je crois dans ce que dit Annick, c'est
mais elle peut être exprimée.
Dans ce que dit Annick, ce qui introduit une difficulté, là, c'est qu'il faut verbaliser pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, ouais. Tant que tu as une intuition de quelque chose, tu peux avoir le sentiment que tu t'y retrouves plus ou moins, mais au moment où tu vas devoir communiquer avec quelqu'un d'autre, alors il y a une insatisfaction qui vient dans la manière de retranscrire.
Voilà. Ouais. Et par exemple, il y a aussi tous les moyens, enfin le moyen qui est le langage. Le langage n'est qu'un moyen, parce que c'est un moyen d'expression le langage, mais tu peux avoir d'autres moyens d'expression. Par exemple, il y a des choses qui se disent, mais vas-y, alors voit du tableau. Il y a, dans le tableau, quand on décrit le tableau, on n'aura jamais le tableau. Parce qu'on est dans une session, alors que le tableau, on voit tout. Dans un tableau, on voit tout de suite.
Tu sais, les tableaux dans les musées, il y a quelqu'un qui a dit que les tableaux dans les musées, ce sont les objets que l'on a vus. Ce sont les objets qui ont entendu le plus de bêtises. Hein? Je ne sais plus si c'est formulé autrement, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Chacun a eu un tableau, un objet, qui en veut. Oui, merci.
J'ai fait passer
la fête. Ah bon, alors,
voilà.
J'ai tout terminé.
Oui, est-ce qu'on peut parler de bêtises ? Chacun peut avoir sa propre...
Oui, non, mais attends, parce qu'il y a souvent la volonté de donner, enfin, d'attribuer au peintre ce qu'on pense du tableau. C'est là qu'il y a la bêtise qui intervient. Ouais. Si tu décris tes propres sentiments devant un tableau, ça ne peut pas être une bêtise. Regarde, tu décris tes trucs. Maintenant, si tu dis le peintre a voulu dire ça, ceci, cela, là, c'est l'interprétation quand même un peu souvent osée.
Oui, mais c'est la discussion qu'on avait avec Jean-Jacques tout à l'heure. Jean-Jacques disait, moi je connais peu la peinture de la Renaissance. Il disait que, en fait...
Il y avait des documents.
Mais voilà, c'est que là,
c'est l'histoire de l'art, là, ça c'est autre chose.
T'es contente, là,
hein? Hein? Ouais, très bien.
Ça a l'air, quand même.
Des trucs comme ça, j'aime bien.
C'est sympa. Ouais, c'est chouette, non?
Ouais, c'est vrai,
c'est sympa. Très sympa.
Merci.
C'est pas mal, on sert ça avec Maïsie.
Ouais.
C'est pas mal. Pardon.
C'est vrai que ça faisait manger des légumes à Sacha quand il était petit. Mais on est ce qu'on veut dans les flancs. Hein.
Ouais, c'est sacrement, oui.
Je crois qu'une pète, ça va.
Non,
non, en fait, non, non, c'est vraiment des flancs tout simples. Mm. C'est les moules après, tu sais, qu'on fasse d'eau.
Non, mais l'ensemble, c'est un
chocolat. Ah oui.
Oui, parce que ça.
Mais sinon, ça a l'air petit comme ça.
Alors, comment s'entend?
Comment s'entend? Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Tu veux le dire?
Non, non, merci, je ne regarde pas.
Je ne comprends pas le mot.
Sur le marché,
dimanche matin, je vais au marché.
Et maintenant, qui voulait des lunettes de vue,
il y a 3 pour 5 euros. Enfin, beaucoup de choses, en fait. Disons, une grande partie.
Alors, comme il en avait déjà,
disons, est une interprétation
directe,
parce que c'est vrai que, de toute façon, la science est une interprétation.
Des lunettes de vue, tu sais.
Alors, comment
les lecture.
Non seulement déjà, c'est une interprétation directe, parce que le réel,
oui,
c'est qu'il est, en soi, on n'en a jamais accès, hein, parce qu'on a accès à travers nos sensations, etc. Mais à l'intérieur de ça, tu as aussi les différents êtres humains qui ont des capteurs qui vont être très différents. Moi, je pense à des trucs très basiques, genre pas la même vue, pas la même ouïe, pas la même sensibilité à la chaleur, etc. Donc en fait, le monde il est tout le temps filtré déjà à travers notre corps.
Mais tu ne peux pas dire ça, parce qu'il y a des choses qui, au fur et à mesure que le temps passe, on voit bien que les gens sont toujours d'accord sur quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, sur le fait qu'il y ait des pharaons en Égypte. Aujourd'hui, il n'y a plus de pharaons, mais il y a un président de la République. On voit bien que les gens se sont entendus.
Oui. Alors, c'est pour ça, je dis, comment s'entendre? Comment fait-on pour s'entendre? Quel est cet invariant? Quel est ce qui reste, en fait? Comment?
Alors ça fait partie d'un travail contemporain. Donc on n'est plus là avec des trucs, des références sur Socrate, tout ça, on est à la France contemporaine, ça s'appelle la mémétique. Alors l'idée est la suivante, on a fait l'étude de la génétique, et on s'est rendu compte qu'il y avait une transmission par les gènes de quelque chose de biologique. La mémétique, c'est par la même idée. Elle conçoit qu'on transmet quelque chose à travers les générations, même à travers la population, des savoir-faire, un tas de choses, mais que ça ne passe pas par des gènes. Donc on suppose quelque chose qui s'appelle des mèmes, et qui serait des choses qu'on serait capable de se passer d'être humain à être humain, probablement de génération en génération, qui transmettent quelque chose d'identique ou
à peu près identique.
Oui, mais c'est étudié comme ça. C'est-à-dire, on fait la supposition, quelque chose comme ça, et on se met à travailler autour de ça, c'est-à-dire, ben, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, etc. Et c'est donc l'objet de la même étude.
Je ne sais plus qui, je crois que c'est Einstein qui a dit, la limitation, plutôt que ça. N'est pas seulement le moyen principal d'apprentissage, ça pourrait bien être le seul.
Intéressant
comme.
Moi j'avais pu comprendre les différents langages, les différentes intonations qu'il y a dans les différentes langues. C'était lié au fait que le bébé essayait tout et il voyait ce qui marchait. Qui fait réagir son entourage. Mais est-ce que, je veux dire, un petit.
Moi je crois qu'il fait comme. Il fait comme, tu vois, tout.
C'est ça, donc un japonais qui viendrait en France à l'âge de 3 jours, il aurait après l'accent de Titi parisien.
Bien sûr, bien sûr.
Et il babille, en fait, quand il babille, il essaye tous les sons, effectivement. Et. S'il fait des is, les Français ont le bol, c'est bizarre. Et en fait, il va effectivement sélectionner ce qui marche.
Ce qui ressemble le plus à ce qu'il entend.
Aussi.
Ce qui rend son entourage content. Ses parents peuvent dire oh, t'as vu, il parle déjà, c'est quand même mieux que...
Mais il paraît
que Churchill a parlé très très tard.
Oui, il est mort à 93 ans, mais il a parlé tard, oui.
Tu vois, c'est encore le double sens du langage.
Mais il a parlé pour la première fois très tard. Et il paraît, il a dit quelque chose, on était à table, et il a dit « Will you please lend me the piece of cake ?» S'il vous plaît, je voulais passer
un chat de gâteau. Ouais.
Alors, comme si il n'était pas question de dire quelque chose avant d'être capable de faire une phrase.
Alors, je connaissais une version un tout petit peu différente pour un enfant de psychanalyste. Qui, à l'âge de, je ne sais pas combien, on va dire 6-7 ans, ne parlait toujours pas. Et ses parents étaient inquiets. Bon, ouais, bref. Et puis un jour, il demande de, est-ce que je peux avoir du sel, s'il vous plaît ? Mais tu pars oui, mais jusque-là, tout était parfait.
J'ai aucun problème ni avec ma mère ni avec mon père.
Mais c'est très profond en fait. Ça, c'est à partir du moment où ce n'est pas suffisant que tu commences à parler. Parce que le langage, il permet quand même, quand le bébé crie, etc., il ne se fait pas toujours comprendre. Quand il commence à parler, il commence à dire voilà, je veux ça, j'ai mal, etc.
Alors, et ben, on n'est pas encore prêt.
Comment cela se fait ça?
Mais ça, c'est le rapport entre le langage, le besoin, la demande, le désir. Oui. On comprend fort bien. Mais là, c'est un petit peu différent. La question qui est posée, c'est le problème de l'interprétation. C'est-à-dire que, indépendamment du fait que l'on parle parce qu'on a besoin de quelque chose, ou qu'on désire quelque chose, ou qu'on a un manque,
oui.
Il y a aussi le fait qu'il y a une question d'interprétation qui se pose.
Oui, mais là, parler d'interprétation, quelque chose de...
J'ai fait une référence.
Désir, c'est déjà quelque chose qui est de l'ordre d'une interprétation. Ouais. Puisque c'est ton désir, c'est ton... C'est toujours
l'interprétation, c'est... Le problème du codage.
C'est une interaction entre le réel et toi-même. À ce moment où il y a deux êtres séparés,
oui.
deux natures différentes, qui sont le réel et toi-même, tu vas avoir toujours ça. Oui. Et que quand tu vas exprimer, tes désirs sont aussi une interprétation de tes relations avec les autres, ou etc. Puisque, par exemple, la psychanalyse montre qu'on a pas... Enfin, même si on peut avoir des névroses, des choses communes, enfin, tu vois, mais on n'a pas forcément les mêmes. On n'a pas forcément la même histoire, etc. Donc forcément, il y a bien aussi un tri qui se fait, et un tri qui s'opère, et il y a aussi quelque chose qui peut être de l'ordre de l'interprétation. Comme on n'a pas, par exemple, on dit souvent, deux enfants dans une même famille ne vont pas, face à des mêmes événements, ne vont pas du tout réagir de la même manière.
Donc, ils ne vont pas interpréter.
Ils
ne
vont
façon,
pas les interpréter
de la même façon, donc ils réagissent pas de la même façon.
Et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas d'éducation.
Mais cela dit, c'est pas aussi flou que ça. J'ai fait une référence là sur ce marqué des
mots. Non, mais je pousse jusqu'à l'absurde.
C'est Sarkozy qui parle. C'est Sarkozy qui parle. Il reprend une sorte de façon de penser populaire, puisque il est interpellé par une journaliste. Il lui dit, mais par rapport à telle situation politique, il était à Moscou, vous ne dénoncez pas. Et Sarkozy dit, mais les mots ont un sens. Et il le dit plusieurs fois, c'est vrai que en disant ça, les mots ont un sens. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas signifier. Parce que, il dit par rapport à la lutte qui oppose la Russie avec un des pays de l'Est, il ne se prononce pas parce qu'il dit « Je ne peux pas, moi, en tant qu'homme politique, etc., avec la position que j'ai, si je le fais, il y aura une conséquence. Les mots ont un sens. Si j'en parle, ça peut créer une difficulté, par exemple, entre la Russie et la France, et je ne peux pas me le permettre. »
C'est une réponse extrêmement curieuse, parce que, bien sûr,
c'est
les mots ont un sens. Quoi qu'ils disent, ça aura un sens, et ce sera interprété. Mais alors,
c'est comme ça qu'on dit dans le populaire. C'est dans le populaire, on te dit, mais attends, si tu dis ça, alors ça veut dire quelque chose. Tu ne peux pas parler impunément. Oui, les mots ont un sens.
Le fait de rien dire aussi.
Je pense que c'est pas tant que ça a un sens, c'est que forcément... ça a des conséquences. Je pense que c'est pas tellement le problème du sens que du problème
des conséquences.
C'est-à-dire que
Ben, ça rejoint un petit peu ce dont on parlait à une époque, là, quand on disait dire, c'est faire.
Oui. Hein,
c'est ça.
Alors, c'est tout à fait la même chose. Ça fait partie du pragmatisme, ça, quand dire, c'est faire. C'est tout le courant anglais avec Austin. Ouais. Par exemple, quand on dit oui au moment de se marier, ben, c'est un acte.
Voilà. Donc, le langage a effectivement une. Et d'ailleurs, c'est assez que dans les relations avec les autres aussi. Parfois, on peut dire des choses qui, pour soi-même, n'ont pas de poids. C'est-à-dire, tu vas le dire, ça va être un mot en l'air, ou ça va être un énervement d'agacement, ou ça va être. Ça n'a pas de sens pour toi. C'est-à-dire que ça. Si, le sens que ça aura, ça aura peut-être que juste tu étais agacé, fatigué, tu n'avais pas dormi, ou je ne sais pas quoi. Mais n'empêche que ce que tu vas dire, ça va avoir.
Ça peut
avoir
vraiment un impact. Ça dépendra comment ce sera interprété.
Il y a une phrase, c'est donner sa parole.
Ouais.
Donner sa parole, oui, ça veut dire que quelque chose.
Ce que disait Annick, c'est qu'on peut dire quelque chose à quelqu'un va le prendre bien, et puis le voisin va mal le prendre.
La même phrase.
La même phrase. Et les efforts, c'est pas trop pour quoi.
Et aussi parce que
parfois on ne donne pas, enfin disons que le sens, moi je crois beaucoup à la médiation du corps dans la société, etc. Et c'est simple, ça peut être simplement, parler peut être un acte, je dirais presque corporel, enfin, simplement une émission de son que tu vas faire à un moment donné parce que ton corps est dans une telle disposition, tu vois, mais pour toi, les mots n'ont pas de sens en eux-mêmes. Ce qui a du sens, c'est l'état dans lequel. Tu sais, on le dit, quand les mots dépassent ma pensée. Quand on dit, on peut dire des vacheries à quelqu'un, mais on ne le pense pas. En fait. Tu crois pas
ça. Non, je crois que quelque part, ça vient de quelque part.
C'est souvent une manière de reculer en bon ordre, voilà. C'est ce qu'on voulait dire.
Bon. Tu crois. Moi, je crois en tout cas, c'est ce qu'une partie de toi voulait dire. Tu ne peux pas dire quelque chose qui ne fait aucun sens pour toi. Peut-être que tu as laissé parler, on n'est pas monobloc, hein, on a les différentes parties de nous. Donc tu as laissé parler une partie de toi, et après tu regrettes d'avoir donné la parole à cette partie, et tu dis,
c'est pas ce que je
ça dépasse
dire.
Ma pensée.
Ah ouais, mais moi je pense que.
J'ai
lu ça hier récemment dans un roman, justement, où un personnage, simplement parce qu'il a pas dormi de la nuit, quoi, et
oui,
il va sortir un truc qui n'a. Franchement, pas de sens, même pour lui, tu vas dire qui est tout à fait et à la fois.
Mais d'où ça sort, ça sort de lui. Hein.
Le sens que ça a, c'est de dire à ce moment-là quelque chose qui correspond à son humeur. C'est-à-dire quelque chose qui correspond à l'état dans lequel est son corps. Moi, je crois beaucoup aussi qu'il y a je suis un peu matérialiste, j'avoue, mais je crois beaucoup que. Quand on parle, c'est aussi parfois simplement notre matérialité, notre corps qui parle. Ce qui m'a fait penser à ça, c'est une émission, je ne sais plus quoi, où il y avait l'homme politique là, du Front de Gauche, comment il s'appelle, celui qui a des vacheries, Mélenchon. Là. Et il disait, alors, c'est un autre exemple, hein, mais c'est pas celui auquel je pensais au départ, mais. C'est des petites choses comme ça qui. Ça, voilà, tu vois, si tu réfléchis comme ça, en fait, tu entends un truc, ça te pense à telle chose, et puis après, tu entends un autre truc. Et donc.
Je vous promets la phrase de Josiane tout à l'heure. Cause peur sa pensée, en parlant.
Pourquoi? Parce que je ne construis pas ma pensée en parlant. Et donc, Mélenchon a insulté un journaliste, un jeune journaliste.
Un élève journaliste.
Voilà. Et dans cette émission, il explique, il dit, mais voilà. C'était une énormité, mais j'avais pas dormi de la nuit, j'en avais plein les bottes, et en plus il y a ce type là qui vient m'ennuyer, quoi, quelque part, oui. C'est ça.
Mais on voilà. Ne peut pas le comprendre, seulement, quand on dit mes mots dépassent ma pensée, c'est mes mots dépassent ma pensée logique, ma pensée rationnelle, mais il y a quand même, c'est sorti de moi, et je peux pas raconter que c'est un truc qui m'est passé à travers moi, qui venait d'ailleurs, quoi.
Je veux dire, je vais reprendre l'exemple de Gordon Monde que j'ai cité tout à l'heure. Il va passer son temps à dire que c'est pas ce qu'il voulait dire, mais en réalité c'est vraiment ce qu'il voulait dire.
C'est une façon de s'excuser.
Oui, c'est une façon de s'excuser, bien sûr.
Maintenant, il y a quelquefois un humour qui peut être légèrement agressif, qui est une forme de chahutage. Entre amis, par exemple, on peut très bien s'envoyer des vannes. C'est pas forcément méchant.
Ça peut être culturel. Moi, j'ai connu un psychothérapeute qui était américain, mais il était d'origine irlandaise. Et il avait inventé une thérapie, une forme de thérapie qu'il appelait provocative. Et ça consistait à provoquer en étant un peu, entre guillemets, méchant, si tu veux. Mais il le faisait très gentiment. C'est-à-dire qu'il y avait un décalage total entre les mots qu'il disait et le côté, il touchait la personne, il la regardait tendrement.
Ouais.
Par exemple, une jeune femme, une femme qui avait 40, entre 40 et 45, et elle était complètement désespérée parce que son mari voulait la quitter, etc. Et alors il lui dit, mais c'est normal parce que vous êtes une épave vieillissante.
D'accord.
Et en fait, bon, il ne le pense pas, mais il pense qu'elle le pense.
Oui, bien sûr.
Donc il fait aller à l'extérieur quelque chose qu'elle ne veut pas s'avouer, qu'elle ne veut pas dire tout haut. Donc, en quelque sorte, elle peut en vouloir à lui d'avoir dit ça, mais c'est pas elle. Donc, elle s'est extériorisée.
Ouais. Mais moi, je tiens mon idée quand même. Je pense qu'il y a tout ça. Je pense qu'il y a tout ça. Mais je pense qu'il y a tout ça. Et surtout, ça est vrai. Mais c'est quelque chose qui m'a frappée quand même plusieurs fois. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du. Enfin, de plus en plus, je pense que le corps est vraiment. Cette espèce de médiation entre. Enfin, avant, moi, j'étais plutôt spiritualiste, donc je ne croyais pas. Enfin, je ne croyais pas à ces choses-là, mais c'est à force d'avoir
cherché quelque chose. Je ne te comprends pas du tout, là.
Ouais.
Parce que, oui. En quoi le fait de dire que c'est le corps qui s'exprime empêche que la pensée t'appartienne ?
Non,
c'est pas ça.
Par exemple, qui va dans ton sens,
je pense qu'il y a des choses.
Le rire.
Ouais.
Tu ris, tu t'éclates de rire tout d'un coup, c'est vraiment quoi, quelque chose.
C'est parce que tu as donné un sens à ce qui a été dit. La personne qui ne comprend pas la blague, elle ne rit pas.
Oui,
mais c'est ça. Mais je veux dire, il y a deux choses. Il y a ce qu'on maîtrise et ce qu'on ne maîtrise pas. Mais les deux fois, c'est notre corps qui le fait.
C'est
dans
tous les cas.
Donc, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas.
C'est vrai, mais.
Le corps fait un lapsus, des fois, on va dire révélateur. Des fois, quelque chose
moi, je
ne
parle
pas
des lapsus, je parle de l'influence de notre état physique.
Qui fait qu'on contrôle moins. On contrôle moins. Donc, on laisse s'exprimer une partie un peu gronchon, un peu, mais qui est à nous. Cette partie gronchon, elle m'appartient. D'ailleurs, il faut l'assumer, parce que ce serait trop facile. À ce moment-là, quand même, j'ai dit n'importe quoi, je t'ai traité de conne ou machin, mais c'était pas moi, c'était pas ce que je voulais dire.
Non, mais c'est pas ça que je veux dire non plus. Hein.
Tu me donnais quand même l'exemple de Mélenchon qui insulte le.
C'est vrai, je dis pas qu'il a raison, hein, ceci dit.
Ah, mais moi je dis pas qu'il a tort non plus, ce que je dis, c'est quelque chose qu'il avait quelque part en lui à ce moment-là. Mmh. Ça lui appartenait. On ne peut pas dire qu'on exprime quelque chose qui ne nous appartient pas. Ça n'a pas de sens, c'est pas responsable.
Oui, mais ce qui nous appartient pas n'est pas forcément de l'ordre du sens.
Moi, je dis que ça nous appartient, je dis pas que ça nous appartient pas.
Mais si ça nous appartient, c'est pas forcément dans le sens où ça va être compris par les autres.
Ah, mais bien entendu, l'autre, il va donner le sens qu'il veut. Hein. C'est clair.
Parce que c'est intéressant, dans ce milieu de c'est un petit truc au passage, elle dit, on ne peut pas dire... comme tu l'as fait, et tu as ajouté, parce que ça n'aurait pas de sens. Ça n'a pas de sens, que de le dire. Parce que c'est exactement l'expression que tu as utilisée. C'est donc bien que quand tu l'utilises, tu penses qu'il y a bien quelque chose qui a un sens. Et c'est ça qui est difficile.
Oui.
C'est difficile parce que...
Ce que je voulais dire, ça n'est pas logique.
Ah, tu dis, ce n'est pas logique.
Ça n'est pas logique, c'est ça ce que je veux dire. Parce que d'où veux-tu que vienne ce que je dis ?
Ce serait insensé. Ça. Si ça venait pas de moi, ce serait insensé.
On peut jouer avec les mots, mais
qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça vient de toi ? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dis quand
ça ne peut pas venir d'ailleurs, ça ne tient pas de derrière. Ça ne peut pas
traverser les idées de rôle qui sont mis en contact, et puis voilà.
J'aime bien la notion de partie de la personnalité, parce que ça permet de comprendre bien des choses. C'est-à-dire qu'on peut, quand on est dans sa partie rationnelle, se dire ce journaliste. Il fait son métier, il est jeune, il ne connaît pas encore, il m'a dit ça, ça me casse les pieds, mais bon, c'est pas grave. Et dans sa partie qui a mal dormi et qui est gronchon et machin, il dit, tu me gonfles et tu...
Mais ça ne veut pas dire qu'on... Enfin, je pense que ça ne veut pas forcément dire qu'on pense vraiment qu'il a un abouti.
Oui, mais il y a
cette partie de moi le pense, et je peux, dans ma partie raisonnable, raisonnante, etc., dire, t'exagères, Josiane, d'avoir dit ça, parce que tu t'es laissé aller, là, dans ta partie,
je suis pas
machin.
Avec ça.
Je ne dis pas que je me le dirais forcément. Ouais. Je veux dire que je pourrais dire ça.
Justement, je pense qu'on peut, on peut dire parfois des choses qu'on ne reconnaît pas du tout comme étant soi.
C'est ça,
oui, mais alors c'est de la malhonnêteté. Moi, j'appelle ça de la malhonnêteté.
C'est pas ça, l'inconscience, c'est quand on dit des choses.
C'est l'irresponsabilité. Non, parce que je pense que tu es obligé d'assumer. De toute façon, quoi qu'il arrive, tu vas assumer comme ça vient de toi.
Oui, mais
ça vient de toi.
Non, c'est pas, non, ça vient pas de moi.
Non, je pense qu'on peut. Je pense qu'il y a une partie qui ne tombe pas. Je pense qu'on ne peut pas tout expliquer par la psychanalyse. Par
exemple.
Je pense que ça peut arriver. C'est-à-dire qu'il peut arriver. J'ai pas d'exemple précis, mais.
Je vais essayer de donner un exemple. Oui. On échange des copies de classe de terminale. Et après, on se les rend avec leur traitement. Et je rends une copie, un paquet de copies d'une classe à une collègue, la classe avait une bonne moyenne, et ma classe avait une assez mauvaise moyenne. 4 points en plus de ce qu'elle a eu au bac 2 mois plus tard. Donc je dis, je suis un peu déçu, je m'attendais à mieux. Voilà. Et ma collègue, tout fort dans la salle des profs, dit, mais c'est parce que je suis une bonne prof, moi. Je ne sais pas pourquoi ça m'a énervé.
Moi, je ne parle même pas de trucs comme ça.
Donc, je rumine ça, puis après, je lui envoie un mail avec copie à une ou deux collègues, tel que je sais les faire, en expliquant ça. Et le lendemain, elle vient me voir en pleurs. « Ah, mais je ne pensais pas du tout, je ne voulais pas te faire de peine, etc. » Moi, je crois qu'elle voulait dire à tout le monde.
Moi, je ne crois pas, moi. Justement, tu vois, c'est là, moi, je ne crois pas.
Au moins inconsciemment, elle voulait dire à tout le monde qu'elle était la meilleure.
Il y a un contexte.
Moi, je suis une bonne prof, ça veut dire les autres pas.
Alors, est-ce que ce n'est pas Jean-Louis qui s'est dit « mince ». Je pense que c'est Jean-Louis qui s'est dit, bon sang, est-ce que c'est moi ? Et là, c'est venu, pouf, elle a dit quelque chose. Sinon, ça ne t'aurait pas touché, t'aurais dit.
Justement, c'est les plaisanteries que tu disais, là. C'est-à-dire que c'est des plaisanteries qui, effectivement, sont pas...
Si ça t'a touché, surtout
que...
ça m'a touché, parce que...
Surtout que vu ton statut dans le lycée, vu ce que j'en entends, etc., j'ai vu ton statut, ça m'étonnerait qu'il y ait... quelqu'un qui pense que tu sois un mauvais prof déjà, tu vois.
Mais il n'est pas prof de français de toute façon.
Il y a un contexte, le fait de le dire en salle
des profs, etc.
Je pense que c'est toi que ça a blessé profondément parce que peut-être.
Attends, mais c'est une insulte qu'elle m'a.
Il y a quelques fois le désir de vouloir briller ou dépendre de quelqu'un. Ça, c'est très fréquent de vouloir briller ou dépendre de quelqu'un dans le.
Voilà, je pense que
c'est quelqu'un qui a un peu cabotin dans une.
Et je pense que c'est plutôt elle qui a un complexe et qui a voulu essayer de régler comme ça. Et bon, voilà, mais moi j'ai pas me laissé marcher sur les pieds.
Quand tu es en salle de prof ou au restaurant ou dans un contexte comme ça où il y a plusieurs personnes, qui n'est pas forcément un contexte amical, tu dis, il y a des choses que tu ne dis pas comme une.
C'est certain. Oui. Les mots ont un sens, et je pense qu'il nous appartient, disons que parfois on peut justement laisser échapper les choses, mais il nous appartient de réfléchir à tous les sens possibles que nos paroles, ça va vite, que nos paroles pourraient avoir, dans des contextes où c'est délicat.
Oui,
quand c'est délicat.
C'est idéal parce que ça signifie que chacun d'entre nous est capable d'analyser tous les sens possibles. Alors, en tout cas, mais on n'est pas tous logés à la même enseigne dans ce truc. Il y a des gens qui sont plus ou moins capables, de par leur culture, par exemple, de donner différents sens. C'est-à-dire que je pense que quand Sarkozy parle comme il le fait là,
il utilise toutes ses capacités à lui de, rhétorique, de rhéteur, d'avocat, tout ça, avocat bien formé, hein, pour enfoncer les gens à qui il parle. C'est-à-dire qu'il va ramener plein de sens que l'autre n'avait même pas imaginé au moment où il était intervenu, et il va l'enfoncer avec ça, comme il l'avait fait avec Cohn Bendit. Quand ça s'était passé c'est à Strasbourg ou c'est en Belgique, je ne sais plus, où ils se sont invectivés comme ça à propos du Tibet, c'était impressionnant. Je veux dire, comment il l'a roué dans la farine en disant qu'il venait manger chez lui et que.
Oui,
tu, tu l'avais vu, hein.
Je me rappelle de ces questions.
Il l'a roulé, mais on voit bien qu'il était capable verbalement de ramener des sens auxquels l'autre n'avait même pas pensé. Pourtant, Dieu sait s'il connaît.
Mais même ce que tu as donné comme exemple, dire les mots ont un sens. Comme ça ne veut rien dire dans ce contexte-là, ça cloue le bec un peu à l'interlocuteur.
Voilà.
Pourquoi il me raconte ça?
Oui, c'est ça.
Dire mais de toute façon, quand tu vois l'extrait,
le temps que la personne comprenne.
Pourquoi il me dit ça? Bien sûr que les mots ont un sens, bon, que ça veut dire dans ce contexte-là. Voilà. Ben hop, il est passé à autre chose, et puis toi, tu es resté le mec dans l'eau. Donc ça peut être un procédé, absolument.
Mais tu peux le voir, tu cliques, c'est très bref, hein, ça dure 3 minutes à peine. Hein. On voit comment il le dit, Sarkozy, là, dans les mots ont un sens. Et c'est impressionnant. Là, l'extrait, en plus, est criant. C'est-à-dire que c'est dénonciateur.
C'est faux, les mots n'ont pas un sens,
comme
ils
tu
en ont
fait,
plusieurs.
Hein. Donc, et en plus, comme c'est repris plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on voit que c'est un truc qu'il utilise à plusieurs reprises, avec Libé, avec.
Je crois qu'il s'est mal exprimé.
Non, il le fait tout le temps. C'est un truc qui se fait régulièrement.
Mais, et est-ce qu'aussi, des fois, le mot crée un sens? C'est-à-dire que. On a regardé une émission, un passage rapide, l'autre jour, où on discutait sur le bouclier fiscal. Il y avait un représentant du patronat qui disait, ben, on appelle ça bouclier fiscal, c'est bien parce qu'il y a une agression du fisc.
Oui, c'est ça.
C'est pas ça, c'est un truc de... Je veux dire, ça prouve pas du tout qu'il y a une agression du fisc, c'est simplement...
Ah bon, je trouve quand même que le fisc est assez agressif quand même.
Parce que tu gagnes beaucoup, parce que si vous gagnez pas, ils disent pas ça.
Oui, je me suis pas fait le bien.
Je veux dire, on utilise un mot et après on génère le sens qui va avec. Alors que.
Je tiens à cette
l'impôt, c'est une participation collective à la vie de la société.
Que justement, l'autre l'interprète avec son propre vécu, sa propre subjectivité, et que je pense vraiment. Qu'il peut y avoir des malentendus ou des choses comme ça qui sont dues au fait qu'on n'a pas la même sensibilité, la même cuirasse ou le même... Enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais que des choses qui peuvent être banales peuvent avoir pour certains un effet dévastateur.
Oui.
Ça, pour l'avoir constaté, franchement,
je ne pense pas du tout.
Ouais.
Peut-être interprété.
Et je pense qu'il y a
le propre de la paranoïa.
Ouais, c'est ça. Bah, le propre de la paranoïa. Ouais. Ou c'est quand je discute avec la mère d'Héloïse, tu vois, c'est ça. C'est des psychotiques. Et franchement, quand je discute avec elle, il y a des moments où je m'arrête parce que je sais que là, je peux plus. On peut discuter dans un petit carré, quoi. Mais hors de ça, c'est pas possible, quoi. Il y a vraiment un moment où on peut pas. Surtout sachant qu'elle me dit après, de toute façon, moi, a priori, on peut me dire ce qu'on veut, mais moi, je pense toujours qu'on veut du mal à ma fille. Hein. Elle dit ça après, quoi.
Elle s'en rend compte.
Voilà, elle s'en rend compte. Elle dit, de toute façon, on peut me dire ce qu'on veut. Même si je dis rien, je pense quand même, quand je suis chez moi, je pense toujours qu'on veut du mal à ma fille. Donc, c'est flippant, d'ailleurs. Hein. C'est flippant. Ça veut dire que ce que tu dis, parfois, que...
C'est fort, parce que, déjà, être consciente de ça,
ouais, c'est déjà pas mal.
Oui, pas si mal, parce que la plupart du temps, ils se rendent absolument
oui, bien sûr. Compte que...
Oui, mais alors le mec avec lequel elle est, c'est une épave. Hein.
Oui, c'est vrai, oui. Oui, je suis d'accord. Mais c'est très curieux, oui. Mais
c'est très pénible, quand même.
C'est
le premier contact que j'ai eu avec elle, je me souviens, c'était devant l'école, donc c'était il y a déjà 2-3 ans, quoi. J'ai eu les poils qui se sont réveillés immédiatement. Quoi, je veux dire.
Ça dépend des phases de traitement, parce qu'il y a des moments où elle est pas mal, hein, lui aussi, ça dépend de ses phases. Ouais. Alors, lui, ils sont tous les deux en traitement, et il y a des fois.
Mais lui, c'est la même maladie qu'elle ou...
Parce que qu'il a l'alcool avec.
Ah ouais, je pense que c'est pas possible. Il se drogue.
Mais ça dépend vraiment du traitement. Je trouve qu'il y a des moments où on a l'impression
qu'il est assez
équilibré.
Ah non, non, au contraire, il a...
Parce qu'il accompagne bien la gamine.
Quand il y a eu des problèmes de violence, il était là pour, pour protéger...
Celui qui est avec sa mère, hein, mais elle n'est pas depuis longtemps avec lui. Hein.
Moi, j'ai non, non, c'était il y a 2-3 ans. Avant, elle n'était pas avec lui.
Non,
on
l'a
vu arriver.
Déjà au moins,
il y a
3-4 ans.
Non, non, on l'a vu arriver sur la dernière année de Sacha. Enfin, bon, on va revenir sur
le problème. Non, mais tu vois, c'est ce que je voulais dire, c'est que je pense vraiment, mais ça, je pense vraiment pour l'avoir constaté. Quand tu es, par exemple, pas sûr de toi, moi, parfois, je suis vraiment pas sûr de moi. Donc. Pour compenser parfois ce manque d'assurance, je vais compenser. Mais je pense que ce qu'on dit, je suis d'accord avec toi quand tu dis ce qu'on dit, bien sûr, elle traduit aussi ce qu'on est. Mais qu'il faut bien connaître la personne, en fait, il faut bien connaître la personne pour savoir exactement ce qu'elle dit. Pour savoir ce qu'elle dit. Et qu'il faut toujours réserver un... Mais pourquoi c'est pas... Moi, je le pense vraiment. Comme je pense qu'avec cette dame-là, c'est difficile à un moment parce qu'on n'a pas les codes. Quoi. Moi, je n'ai pas les codes parce qu'elle a sa maladie, parce que...
Etc. Mais je suis d'accord avec toi. Mais je veux dire que simplement, quand tu dis ça, ça dépend des contextes. Quoi. Si tu écoutes un conférencier, tu n'as pas besoin de
oui,
le connaître.
Voilà, d'accord. Oui, d'accord. Mais je parle surtout dans le domaine affectif. Je pense que c'est dans le domaine affectif quoi, que c'est...
Bien sûr.
Que c'est, surtout dans un couple, par exemple.
Faire attention, bien sûr.
Voilà, dans un couple, c'est je trouve que parfois, ça peut être dramatique parce que chacun... parce que là, tu n'as pas le recul. Voilà. Et là, justement, comme tu es dans le domaine affectif, et dans tes problèmes, parfois, ça veut aussi des fois, tu as tes problèmes, et tu n'as pas la distance nécessaire, ou tu n'as pas la distance de la raison, ou tu n'as pas la distance de la logique, ou de la logique, ou le discours rationnel. Je pense que tu es dans l'affectif, et tu as des gens qui sont énormément dans l'affectif. Ils sont tout le temps dans l'affectif, et qui vont à un moment donné. Qui vont à un moment donné interpréter tout à l'aune de leur propre. Sens, tu vois, de leur propre sentiment interne.
Ça paraît évident.
Voilà. Et c'est pour ça que je pense que parfois, quelqu'un qui pour toi n'a pas, franchement, un truc en l'air comme ça, pour dire des fois quelque chose.
Mais je crois que personne ne dit le contraire.
Voilà.
On est tous d'accord avec ça.
Ouais. Non, mais tout à l'heure, tu posais une question importante, tu disais, oui, mais comment on fait pour s'entendre? Et toi, tu penches régulièrement du côté de on ne peut pas s'entendre. C'est très difficile en tout cas. On n'a pas
les bons codes.
Attends, je continue parce que.
Je pose des questions.
Non, il faudrait avancer parce que sinon on va tourner toujours sur la même question. Allez, bon, on peut effectivement pencher
sur ce côté-là. Tu veux enlever les
assiettes ? Il y a aussi le fait qu'il y a des trucs qui sont établis. Par exemple, tout le travail de la linguistique sur le rapport entre le qualifié et la sensibilité a quand même fait en sorte que, oui, il y a quand même deux poids. Constater qu'on s'entend. On s'entend parce qu'on a un langage sur lequel on se met d'accord. Il y a bien une évocation des choses qui se fait par des mots, d'ailleurs pas seulement les mots, les gestes, plein de trucs, il y a une évocation qui se fait. Et cette évocation, elle est, disons, grosso modo, la même pour tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai que ce n'est pas le foutoir complet. Il y a bien quelque chose.
Mais il y a déjà tous les mots
concrets.
Par exemple, voilà. Sinon, il n'y aurait pas d'apprentissage.
Sur une table, ça évoque toujours.
Je suis d'accord. Je pense que dans un certain domaine, surtout le domaine logique ou mathématique, ou il y a certains domaines où dans le domaine pratique concret, il y a effectivement. Et je suis la première à dire, hein, sur, quand on parle d'une table, on parle d'une table. Chacun se met à vouloir dire voilà, la table, c'est ceci, la table, c'est cela. Je pense bien sûr qu'il y a tout un domaine qui permet de. Là, je suis très attachée par exemple à une discipline quand même comme la philosophie, parce que c'est quand même une tentative de créer un langage commun.
Mais je pense à propos.
Mais je pense que dans le domaine affectif.
À propos des mythologies, là, j'ai cité les mythologies de Barthes. Dans les mythologies de Barthes, il prend des choses qui sont quand même pas seulement concrètes comme la table. Il prend par exemple, là le dessin c'est la déesse, mais il y a autre chose, il prend le steak frit, il prend le catch, il prend somme de choses comme ça, où il montre bien qu'on a
une représentation collective qui est à peu près au même. On pense à peu près la même chose.
Je pense que c'est ce qu'on a vu, il y a des représentations.
On a touché, on a entendu.
Voilà, c'est ça.
Je pense que
c'est la même culture.
C'est la culture. Parce que c'est par des biais de définition, c'est par des biais rationnels. Et moi, je pense que là où ça pose problème, c'est effectivement, tu as des grands chefs quoi, qui sont véhiculés par des cultures. C'est vrai que Jung, ça, il a quand même parlé d'inconscient collectif aussi. Enfin, je pense qu'il y a des choses de ce domaine-là. Mais je pense que là, effectivement, ça ne pose pas trop de problèmes. Et quand ça commence à poser problème dans une discussion, par exemple, c'est pour d'autres raisons. C'est toujours pour des raisons affectives. C'est toujours par rapport à son propre statut et c'est à sa façon dont on se... Enfin, moi, je l'observe chez moi, ça. C'est par rapport à son propre statut. Et plus tu es assuré de ton statut, plus le langage pour toi est clair. Moins tu l'es, moins il est clair. Par exemple, je ne sais pas, moi, dans un domaine assez... Enfin, moi, je pense vraiment... Je pense que, par exemple, quand... je ne sais pas, moi, je trouve un exemple. Un musicien, par exemple, un musicien qui maîtrise parfaitement le piano, il n'aura pas de problème. Il supportera mieux la critique, les choses vont lui passer un petit peu dessus, etc. S'il a eu la reconnaissance, tu prends par exemple deux pianistes de talent équivalent, d'accord, ils ont le même talent. Il y en a un qui est reconnu, par exemple, il est reconnu socialement. Il a le succès, peut-être il est un petit peu mieux physiquement, il a des millinettes autour, je ne sais pas, tu vois, un truc comme ça. Mais pour lui, le langage et ce qu'on dit de lui n'aura pas la même importance que l'autre qui n'aura pas, qui est peut-être un peu moins beau, qui n'a pas eu la reconnaissance et le succès. Et ça, j'en suis persuadée, parce que c'est quelque chose qu'on observe très facilement. Par exemple, quand tu as des gens qui sont dans un certain domaine de réussite, je dirais sociale ou affective, je pense à la réussite affective quelque part est très très importante. C'est-à-dire des gens qui sont relativement bien dans leur vie, qui sont plutôt avenants, etc., qui font des tas de choses, etc. Je pense que les choses qu'on leur dit n'auront pas le même impact que les choses qu'on dit à quelqu'un qui n'est pas bien, qui est malheureux, qui est tout seul, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on
est d'accord avec ça. Le problème, c'est que. Attends, il faut se raisonner, c'est de recentrer, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Pour moi, ça va devenir compliqué. On a déjà abordé plusieurs fois ce problème du langage. Si on reprend les mêmes choses pour redire ce qu'on a déjà dit,
pour moi, c'est un peu. Pour ne rien dire, je peux.
Non, c'est pas ça que je veux te dire. Ce que je voudrais, c'est qu'on essaye.
Tu vois là, tu vois comme le langage a aussi. Oui, tout à fait.
Ce que je voudrais, c'est.
Parce que je crois qu'il y a une façon de parler qui n'a pas le même impact chez les gens. Et là, c'est un exemple.
C'est ça, il s'agit de retrouver qu'est-ce qui fait l'originalité du sujet.
Mais moi, je m'en fous, ça. Moi, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de poser les questions auxquelles il n'y a pas de réponse, si tu veux. C'est ça. Maintenant, c'est vrai que si je persiste si trop, on peut me dire que ça va, j'en fous pas trop de tout et que je peux m'arrêter. Mais qu'on me dise pas.
Parce que si tu veux, et c'est là, dans ce sujet-là, il y a une thèse. Donc, si tu veux, si on est toujours hors sujet, on n'arrivera jamais à aborder la thèse.
Moi, je suis hors sujet.
C'est quoi la thèse, à ton avis ?
La thèse telle que je la
comprends. Pourquoi je suis hors sujet ?
La thèse telle que je la comprends, c'est dans cette interprétation que se trouve le sens. C'est-à-dire que. Le sens n'a pas d'existence en soi. Le sens, les mots ont un sens, ça ne veut pas dire il y a quelque part un truc que je pourrais te dire en disant tiens, ça c'est le sens, je ne veux pas le voir. Mais par contre, si je prends une œuvre musicale et que je l'interprète, alors à ce moment-là, elle prend sens. Si j'entends quelque chose et que je me le traduis dans mon langage, alors ça prend sens. Si j'entends un truc qui est du chinois, et qu'il y a un interprète qui me le dit en français, alors ça prend sens.
En gros, si j'ai bien compris, c'est ce que tu dis, ça n'a pas de sens, ça n'a de sens qu'à partir du moment
où je le traduis.
Où j'essaye de le comprendre.
Je le traduis.
Je lui donne du sens.
C'est ça. Alors, après, je pose une deuxième question. Et alors, c'est quoi ça? Parce que je vais aller jusqu'au bout de l'idée. Ça, c'est le premier mouvement, c'est celui-là. Et je sais très bien que c'est très difficile à faire passer. Idée, je trouve assez tordue. La deuxième idée, c'est que c'est biologique. Et ça, c'est encore plus compliqué. J'ai mal à comprendre ça. C'est un truc que j'ai déjà dit plusieurs fois. Puis là, il y a une référence ici sur le truc, c'est-à-dire le truc s'appelle le sens inscriptif. Il y a des travaux contemporains, purement contemporains, qui sont des dernières, même pas la dernière décennie, où on voit que lorsque je vois quelqu'un faire quelque chose, je vais ressentir, je vais au cinéma, je vois un truc, du cinéma, c'est même pas du réel, c'est du fictif, je vais ressentir quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des cellules dans notre système nerveux qui sont capables de se mobiliser à l'évocation de quelque chose. Et ça prend sens.
Je sais qu'un spectacle de danse, on a mis des électrodes sur les gens qui regardaient un spectacle de danse, les muscles qui correspondaient à ceux qui étaient en mouvement chez les danseurs se bougeaient.
Et voilà, c'est comme ça que je me représente le sens. Et c'est pour ça que je dis que ça peut être une activité volontaire. C'est-à-dire que si je veux comprendre, donner du sens à quelque chose, mon travail, c'est de le traduire.
Oui, moi je suis d'accord avec toi.
Ah, c'est pas facile à expliquer. Hein.
Non, non,
j'ai mis du temps. Hein.
On m'a dit dans le perspective de pédagogie qu'il y avait deux formes d'acquisition de mémoire pour les élèves, une mémoire visuelle et une mémoire écrite. Et que la mémoire visuelle, c'était par l'apprentissage, et que par la vision, hein, plutôt épreuve de maths, etc. Et que la mémoire écrite, c'était par l'écriture.
Mais ça, il y en a une troisième, c'est une mémoire
gestuelle.
Oui.
Et puis il y a gestuelle. Oui,
mais gestuelle, c'est ce qu'il dit, c'est le fait d'écrire,
ouais,
c'est
la geste.
Visuel,
ça dépend de l'âge de l'enfant. Pour certains enfants petits, c'est vécu. Pour des plus grands, ils entendent, par exemple, ou ils voient, et ils éprouvent le besoin de faire un geste qui est l'écriture et qui leur permet de s'approprier.
Je suis obligé à la fois de, quand je fais les choses, de dessiner la figure.
Par exemple, de faire un dessin comme tu fais là.
Et de l'expliciter verbalement. Hein, c'est pas uniquement fait de dessiner un triangle équilatéral, je suis obligé de dire aux gens, j'ai dessiné un triangle équilatéral. Que certains élèves
vont... Tout à fait, pour adresser à tous les élèves.
Et aussi parce que, moi, c'est une activité que j'ai avec mes élèves, puisque d'abord le sujet comme ça, c'est que quand je suis devant un travail à faire, je les invite à traduire dans un autre langage. C'est-à-dire que je sais que ça va prendre sens, c'est-à-dire qu'ils sont en train de lire quelque chose, mais
ils disent leur propre mot.
Si tu l'as dessiné, maintenant écris-le autrement, etc. Et ce travail constant de traduction pour changer de plan, c'est que ça finit par prendre sens.
Mais ma question, à ton avis, c'est simplement un genre de mimétisme à la longue qui ferait l'apprentissage, le sens.
Ah, c'est pas seulement l'imitation. Oui, ça a tout à fait l'imitation dans la mesure où c'est le miroir qui travaille. Mais c'est un système qui fonctionne sur la relation des choses. Et ça peut être aussi l'échange avec quelqu'un d'imaginaire. Ça devient compliqué.
Mais
quand je réfléchis, par exemple, je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui n'est pas là.
Ça va.
Et je me traduis des choses parce que je ne suis pas idiot, c'est-à-dire que je n'ai pas un langage qui est individuel, je parle un langage qui s'adresse à quelqu'un qui pourrait être là. Et à ce moment-là, je traduis. C'est comme ça que je vois les choses.
Mais
en gros, c'est parce que j'ai vu plusieurs fois des personnes en colère que je reconnais quelqu'un qui est en colère, que je donne un sens à certaines mimiques. C'est ça.
Ça doit participer, oui.
Mais on engage les parents, d'ailleurs, quand l'enfant est en colère, à lui dire « tu es en colère ».
Ah oui, en plus, on nomme la faille.
Oui, pour faire une correspondance entre...
Je ne sais pas si votre exemple tout de suite, mais...
Mais tu te rends compte de tout ce que tu nous as fait là?
Je ne suis pas sûr qu'on donne toujours du sens comme ça, de cette manière-là.
Ah, c'est possible qu'on le donne autrement.
Je me pose la question.
Bien sûr, tout ce que tu nous as fait,
c'est super. Heureusement qu'ils ne sont pas là.
Est-ce que quand je donne du sens à un raisonnement, c'est toujours en référence à quelque chose que j'ai vu, ou est-ce que c'est pas quelque chose qui se crée tout d'un coup?
Non, c'est quand même une traduction.
C'est une traduction, oui.
Une traduction, même quand c'est un raisonnement logique, il y a une traduction quelque part qui se fait.
Mais il y a à ce moment-là de nouvelles relations qui se créent à l'intérieur du cerveau que je réutiliserai plus tard, mais c'est leur première apparition.
Là, je suis dans l'inconnu. Je ne sais pas répondre à tes questions.
De toute façon, la traduction à beaucoup de niveaux, mais même en prenant simplement la perception. La perception est une traduction de la, entre guillemets, réalité. Tout le monde ne perçoit pas, on ne peut pas percevoir tout, donc on va faire un choix. Donc déjà, c'est une interprétation de la réalité. Ouais. Donc je perçois un certain nombre de choses, je n'ai pas tout perçu, en plus j'ai une gamme de sensations possibles, visuelles, auditives, etc. J'entends pas ce que mon chien entend, etc. Donc, déjà, il y a une interprétation de la réalité. Après ça, une fois que j'ai perçu, le fait de percevoir ne donne pas de sens à ce que j'ai perçu. Donc il va falloir que j'attribue un sens à ce que j'ai perçu. Deuxième interprétation. Et évidemment, tout le monde ne fait pas les mêmes choix. Donc
il y a quelque chose d'intéressant. C'est vrai que tout le monde ne fait pas les mêmes choix. Mais ce que dit Cassirer, c'est à partir du moment où on a commencé à donner du sens, on donne du sens à tout. On ne peut plus s'empêcher de donner du sens.
Mais forcément, de toute façon, un fait n'a pas de sens en soi. Donc on ne peut pas ne pas interpréter. Oui. C'est impossible. Dès qu'on voit quelque chose, on interprète. On n'est pas toujours conscient. Les gens, ils confondent beaucoup les faits et leur interprétation.
C'est un coco.
Oui, c'est un coco, c'est délicieux.
Et tu sais, parfois, quand tu entends gratouiller à une porte, ou je sais pas, tu entends un petit... Quelquefois dans les maisons, tu entends un petit bruit diffus. Et tant que tu n'as pas trouvé ce que c'était comme bruit, ça te travaille, même si bon, tu n'es pas l'angoisse.
Oui, ça donne un sens aux bruits, tout à fait.
Tu veux savoir si c'est un oiseau, si c'est un chat, si c'est... tu veux voir l'image de ce qui produit ce bruit.
Et est-ce que souvent les superstitions ne sont pas nées du fait qu'on n'arrive pas à donner de sens à certaines choses?
C'est un moyen de donner du sens.
Oui, c'est ça.
En tout cas, une explication.
Mais il y a peut-être des trucs qui sont simplement... Par exemple, ça porte malheur de mettre un chapeau sur un lit. C'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont assis sur le chapeau.
Oui,
et qui...
Il y a un truc.
On
peut les
pas de la chapeau dans les fesses.
Oui, c'est ça.
On peut les pas de
la chapeau. Pour écraser le pauvre chapeau.
C'est bon.
Faut pas passer sous une échelle. Peut-être parce qu'il y a des gens qui se sont pris une peau de peinture. Voilà.
Mais c'est bien sûr, mais c'est loin de la question de savoir c'est quoi le sens.
Oui, non, mais c'est vrai, c'est une digression, excuse-moi.
Non. Je sais bien que moi, je gère aussi par rapport à cette question-là, puisque les fois antérieures, on a parlé de Café Philo, ben, c'était par exemple le langage et la politique, le langage et la domination. Donc, j'ai bien cherché aussi, avec vous, à essayer d'aborder le sujet de façon totalement différente. C'est dur d'aller plus loin.
Oui, bien sûr. Puis je pense qu'à un moment aussi, il faut vraiment lire et d'autres choses vraiment plus approfondies. Par exemple, quelque chose que moi, je n'ai pas encore faite, si tu veux. C'est difficile tout seul à un moment. Toi, tu as beaucoup de lectures derrière toi, là, et depuis longtemps. Quoi. C'est pourtant ouais. Parce que la première fois que tu es venu au Café, enfin, première fois en tout cas où on s'est parlé, c'est cette question que tu nous as posée. Ce qui t'intéressait, c'est cette question.
C'était à l'époque, c'était plutôt l'institution imaginaire de la société, c'est-à-dire le fait que collectivement, on institue des imaginaires qui nous guident. Je me souviens parce qu'à l'époque, je
travaillais... Moi, tu avais dit le problème du sens. Moi, tu me l'avais dit. Tu m'avais dit, ce qui m'intéresse, moi, c'est la question du sens. Et tu avais pris l'exemple avec tes élèves. Tu as dit, voilà, avec mes élèves, comment je fais pour eux, ce que je raconte, ça ait du sens.
Oui.
Ça fait des années de ça, maintenant.
Ah, oui.
C'est vrai que je pense qu'il y a un moment où, pour aller plus loin, on a besoin de la pensée des autres et d'une pensée beaucoup plus complexe. Parce que... Pas simplement parce que les gens sont forcément plus intelligents, mais parce que ça fait plus longtemps qu'ils ont réfléchi,
ou
parce qu'ils ont construit, ils ont eu le temps de construire d'autres concepts, des choses.
C'est pour ça que les conférences qui sont cachées derrière ces trucs-là, je les trouve particulièrement intéressantes. Ouais. Ducrot, c'est extraordinaire.
Ce qui est dommage quand même, c'est que, tu vois, ça c'est passionnant, mais je veux dire, pour quelqu'un qui a des occupations,
toi, le temps de visionner tout ça, de le digérer, etc., ça prend beaucoup de temps.
Ah ouais.
Et je trouve dommage qu'avec ça, tu ne fasses pas quand même un petit texte ou deux, où quand même tu poses les problématiques. Parce que je suis bien d'accord que la façon de faire un schéma, bien sûr, elle montre une partie de... Bien sûr qu'elle montre aussi le raisonnement, etc. Mais ce raisonnement lui-même, il est déjà une... Il est déjà... il demande déjà, pour être compris, à connaître un petit peu les contenus, tu vois. C'est-à-dire que pour pouvoir être compris ce schéma, il faut un petit peu connaître ce qu'il y a dedans. C'est pour ça d'ailleurs que tu as pu le faire. Tu as pu le faire parce que tu connais ce qu'il y a dedans.
Je sais aussi que je ne pourrais pas le mettre par écrit.
Oui.
Parce que ce sera trop restreint. Dans une feuille de papier, je n'arriverai pas à faire rentrer quoi que ce soit.
Je pense que c'est quand même dommage que tu ne fasses pas un texte. Mais avec, ça me... Si tu veux, ça me...
C'est vrai que moi, j'ai cliqué sur chaque truc en me demandant s'il n'y avait pas un petit commentaire sur chaque image.
Il y a un commentaire derrière chaque image. Et des fois, c'est des commentaires qui font une heure, une heure et demie.
Oui, bon,
et
voilà,
c'est
ça.
Un petit commentaire. Mais
tu as le temps de voir tout ça et de le digérer tout ça. Ça prend trop de temps dans ce cadre-là. Ça prend trop de temps. Et je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi parce que moi, j'ai déjà eu ce sentiment aussi. Par exemple, quand tu as particulièrement travaillé un sujet ou quand tu as... ou c'est simplement une problématique qui, toi, t'as intéressé. Parfois, dans notre vie aussi, on a quelques sujets comme ça que... Toute sa vie, on travaille, en fin de compte, et sur lesquels on réfléchit, on fait des observations, on a lu des choses, etc. Mais on n'a pas à l'infini des questions comme celle-là. Et toi, c'est une question qui te tient particulièrement à cœur, puisque moi, je t'ai déjà entendu problématiser il y a pas mal de temps, quoi. Donc, je trouve que ça serait intéressant que tu... C'est ça,
je ne peux pas le résumer, je peux cheminer avec les gens. Je réponds. On peut cheminer, c'est-à-dire que je peux, par exemple, au fur et à mesure que le temps passe, faire partager mes idées au fil des discussions, et je ne sais pas mettre ce travail sur une page. Je ne sais pas le faire. Si je fais ça sur une page, ben c'est creux. Il y a deux, trois idées qui se baladent, mais les gens ne peuvent pas comprendre parce qu'il n'y a pas les choses autour, il n'y a pas d'étoffe. C'est tellement squelettique que ça n'est pas accessible. Il faut que ce soit, reposé tranquillement sur des exemples, sur des trucs qu'on leur a dit, qu'on leur a redit. Il faut beaucoup de temps. Ouais. Voilà. Et je pense que je peux toujours le mettre sur une feuille. Moi, je sais le faire. Hein. Je sais écrire, moi, je peux le faire. Mais je sais que c'est limité. C'est-à-dire que je ne serai pas aujourd'hui.
Non, mais
pas envie de le faire.
Il faut que ce soit à la portée. Oui, mais non, c'est difficile. Il a dit qu'il n'a pas envie de le faire.
Je ne peux pas le mettre à la portée. Je ne peux pas, c'est pas possible.
Mais de toute façon, tu as raison, il faut que ça soit développé. C'est peut-être juste simplement, je ne sais pas, par exemple, quand tu donnais « il aime bien sa maman, son papa aussi », simplement dire « est-ce que vous avez remarqué que la phrase a deux sens ?»
Oui, moi je n'avais pas remarqué.
Tout simplement ça, moi je n'avais pas remarqué.
Mais je pense que c'est intéressant de le faire ensemble, bah, donc, si au café de philo on en parle,
oui, parce que
c'est intéressant.
Très bien,
en 10 secondes,
mais je n'avais pas remarqué non plus que ton thème, c'était comment construit-on le sens.
Oui, voilà. C'était une problématisation, hein. C'est simplement ce qu'on te demande, c'est ça. C'est une problématisation. C'est-à-dire, on ne te demande pas, bien sûr que tu ne peux pas résumer, mais personne qui fait un texte pense qu'il a résumé des pensées. C'est pas fait pour ça, hein, je veux dire. C'est pour ça qu'en général, les gens écrivent, hein, c'est pour amorcer des discussions ou donner envie d'aller voir ailleurs ou de se documenter davantage. Mais n'empêche que je trouve que ça manque pas. Moi, en tout cas, ça me manque. Maintenant, si vraiment tu as envie de le faire.
Comme on ne sera pas plus nombreux le jeudi 13,
peut-être.
On a déjà tous préparé la chose, bon. On comprend maintenant ce que c'est. les deux dernières fois, ça m'a bien fait le moral. Hein.
C'était comme ça. Et encore, est-ce qu'on était même pas en
même pas.
Parce que là, on était 3, 4, 5, 6, 7, 8.
On était 5.
En plus, une fois, on était 5.
Je vous avoue que je ne serai pas là. Parce que je serai dans le midi. Je vais voir ma fille.
Oui, mais tout à fait. En plus, tu as tout à fait le droit. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on est trop peu nombreux pour que, si tu veux, il y ait un peu ce que tu disais à une époque.
De toute façon, je prendrai un avion le matin.
Oui.
Non, mais ça dépend peut-être du sujet. Il y a peut-être que le sujet peut être plus de monde.
Oui, c'est pas.
Parce qu'il y a eu quand même des fois où on a eu du monde.
Oui,
c'est vrai.
Mais ça a été.
Non, justement, ces derniers temps, sauf les. Fois, il y a
depuis le mois de février.
Une fois, on était presque 15.
Oui.
Oh, mais on a même été plus.
Oui, oui, non, mais enfin, je veux dire, c'est récent.
C'était à quoi vous mettez beaucoup la vie?
C'était Dieu. Dieu habite tout le monde, toujours.
Non, mais
c'était
pas
Dieu, parce que Dieu, j'étais pas là.
C'était sur la folie, je crois. C'était en tout cas sur un truc comme ça, sur... Si, c'était sur les maladies.
Enfin, c'était peut-être Dieu, je veux dire, mais il y a eu un autre, parce que moi, j'étais pas là à Dieu.
Je sais pas, d'ailleurs, c'est toi qui as fait un truc, Josée, là-dessus. C'était...
Est-ce que c'est inscrit? Est-ce que notre histoire est inscrite?
Est-ce que dans le passé? Est-ce que
non,
le passé,
c'était pas celle-là, non. Pas celle-là. Non, comment reconnaître une bonne santé?
Voilà.
Ah oui, c'était pas
ouais. Est-ce que vous voulez encore du cidre ou je ne sais pas? Merci. Vous avez apporté une bouteille de champagne. Alors, soit vous la remportez, soit on la boit, je ne sais pas ce qu'on fait.
Il y a une troisième alternative.
Ah, on la remonte pas.
Si vous la buvez, on sera parti.
Mais vous, plus tard. Ah.
Mais vous pouvez la boire, hein, même si Julie n'en boit pas. Hein.
Non, moi, je ne boirai pas.
Non, moi, non.
Alors, de la remporter.
Oh, mais non.
Ah, ça
suffit. Non, ça serait une épreuve pour toi de la regarder tous les matins. Non, boire.
Je ne veux pas.
Mais donc, la prochaine fois, vous aurez les invités. Tout ça, ça vous évite de réfléchir à quelle activité vous allez faire.
J'étais à la maison de la citoyenneté pour le demander un temps séparé pour le
café philo, ouais.
Café philo.
Pour septembre.
Oui.
Est-ce qu'il y aura encore un café philo en septembre?
Je ne sais pas, mais j'ai été demandé un temps. Je retourne demain et j'annule le truc.
Mais ça peut être repris, justement. S'il y a d'autres personnes qui veulent reprendre le café philo.
Oui, c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit que personnellement, vous n'avez plus vous en occuper. Vous n'avez pas dit que le café philo est
disparu. Pas du tout. Non, mais on serait très content qu'il continue. D'accord.
Il ne faut pas qu'il va le faire.
Mais.
Il faut qu'il trouve quelqu'un avant.
Non. Alors là, moi, j'entends. Là, c'est clair. Il retombe demain, je lui dis arrêtez. Non. Je ne vais pas prendre le risque d'avoir un stand avec personne dedans. Un truc que j'ai demandé. Tu vois,
c'est pour ça quand on a parlé. Moi, je veux dire, franchement, je préfère encore des discussions comme ça, comme on fait là, tu vois, que cette pression, quand même, toujours d'être là pour. D'éventuels autres et toujours d'avoir un travail de fait, toujours, etc. Quoi. Ça,
ça aussi, ça peut se réfléchir. Hein.
Oui.
Une autre forme, etc. Mais bon.
Mais et le côté, voilà.
Si on trouve des gens qui veulent continuer le café philo, tant mieux. Hein.
Bah ouais.
Oui, on est content. Je vais demander à Jean-Marie s'il connaît quelqu'un.
Voilà.
Mais bon.
Jean-Marie, Jean-Marie pourrait le faire, il aurait une autre vision que nous.
Alors là, il n'aura personne.
Jean-Marie,
il n'y a pas beaucoup de monde. Si on fait ce que l'on dit de Jean-Marie, alors là,
il. Quand elle est à Saint-Quentin, quand elle était à Saint-Quentin, c'était.
C'est trop de culture.
C'était pas bien plus compliqué que chez nous, c'était pareil. Moi, je n'ai pas trouvé de différence importante entre ce qu'il faisait à Saint-Quentin et ce que nous faisons.
Non, enfin, c'est si, il y a quand même des différences, c'est simplement qu'il y a vraiment du monde.
La ville est plus grande, tu vois.
La ville est plus grande.
Elle est plus grande, mais pour le samedi.
Ah, en plus,
ils le font le samedi après-midi, pas le soir.
Personnellement, jeudi soir, c'est le soir où je travaille pour les familles. C'est chose le vendredi pour les familles. Moi, le jeudi soir, je ne veux plus avoir ce truc à faire. Je l'ai fait pas mal de temps, mais non, je ne veux plus le faire. Et puis je pense qu'à un moment, il faut que ça se renouvelle aussi.
C'est important.
Ouais, voilà.
Oui, non, mais là, vous
Il y a une durée de vie, je crois.
Moi, le problème, il était concret, si tu veux. Hein. J'étais à la maison des associations. Je demandais un temps, pour, comme tous les ans, pour l'atelier des arts.
Donc, tu n'as pas entendu ce qu'on t'a dit, tu n'as pas voulu entendre.
Si, j'ai entendu, mais non. Mais, bon, là, maintenant, j'ai bien entendu. Là, j'ai entendu. Café Philo et qui n'existe pas.
Oui.
Et pourquoi tu dis ça sur ce temps?
Bah oui, c'est vrai. C'est là par rapport au sens, tu vois. On dit, faut pas que ça. C'est pas quelque chose de personnel. C'est-à-dire, c'est pas par rapport à toi, par exemple. C'est pas un truc personnel. C'est.
Non.
Tu vois, faut pas que tu le.
Vous n'avez jamais été clair.
Hein. Voilà. Oh, monsieur,
non.
Bah
non,
si.
Non. Non, écoute, on a des soucis là parce que.
Oui, parce que ça, je pense, ça te blesse ou ça te.
Franchement.
Je comprends pas,
en résumé. Je veux dire, moi je suis prêt à la question de sens, on va revenir là-dessus. Je comprends pas. Et j'aimerais un jour en comprendre, mais je pense que c'est pas le moment ce soir,
ouais.
Mais on aura sûrement l'occasion de reparler hein, de ça. Et bon, je vois pas ce qui dans mon attitude aurait pu. Être blessant ou être ou être mal interprété.
Non, il s'est vu que personne n'a été blessant.
Hein?
Alors, moi, je n'ai pas trouvé que il avait été dit, les choses avaient été dites nettement. Clairement. Non?
D'accord.
Enfin, ça m'a paru être du domaine de l'humeur.
Ah bon? Ah oui, non. Je crois que j'ai un jour pris ça. Voilà. C'est pour ça qu'on t'en avait parlé avant, pour justement que tu. Tu puisses en parler, justement, tu avais dit avec Jean-Louis, tu puisses en parler autour de toi pour que ça soit éventuellement repris.
Non, mais de toute façon, on va arrêter, puis c'est tout.
Mais c'est vrai qu'on se disait avec Jean-Louis, quoi, ça peut prendre aussi d'autres formes, ça peut continuer à le faire ensemble.
Ce qui me paraît bizarre, c'est que j'ai pas l'impression que ça soit Jean-Louis qui me l'ait dit, j'ai l'impression que c'est toi qui m'as dit.
Ah ben,
Je ne me mets pas en colère,
mais enfin,
moi j'avais compris.
J'ai fait
ça,
la démarche, c'est que je n'ai pas compris.
Oui,
je
ne
l'aurais pas fait. Hein.
Donc, on est pleinement dans le thème de ce soir, le sens.
Ouais.
Voilà. Donc,
Mais la psychothérapie aussi, elle est basée sur l'interprétation, c'est-à-dire que pour que les choses se transforment et évoluent, il faut qu'on interprète. Le pire, c'est peut-être de ne pas donner l'interprétation, c'est là où les choses se mettent à stagner et à mal fonctionner. C'est bien parce que.
Mais il y en a forcément une. Hein.
Moi, j'ai pas compris.
Le pire, c'est de ne pas donner d'interprétation, si c'est impossible.
Non, on peut très bien vivre les choses sans les interpréter. Oui, on en donne bien une. Mais je pense que pour que les choses s'arrangent, c'est souvent en interprétant qu'on finit par
trouver un moyen de s'arranger. D'ailleurs, une grande partie de la psychothérapie, c'est d'aider la personne à réinterpréter d'une façon plus positive, ou alors de laisser ça comme ça, mais bon, bah, c'est loin, c'est passé, maintenant j'ai ma vie, etc.
Le travail sur la résilience, c'est un peu comme ça aussi, c'est-à-dire que...
Bah ça a été fait spontanément. Les résilients, ils ont fait ça spontanément.
Voilà.
Okay. Du bol,
oui. Enfin, on a tous été résilients sur certains points, parce que c'est qu'on s'en rend pas compte.
C'est une critique, on n'a pas compris.
On a tous été résilients sur certains points, c'est évident.
Mais c'est pour ça qu'on dit que, tu sais, il y a des personnages quoi, qui comptent.
C'est un concept intéressant, la résilience, je trouve qu'il n'est pas banal. C'est-à-dire que.
Je ne connais pas.
Hein, c'est un truc qui n'est pas clair.
C'est Cyrulnik qui a insisté là-dessus, qui a lancé le ballon, maintenant beaucoup d'autres en ont parlé. C'est l'idée que certains enfants traversent. Une enfance qui est parfois tout à fait difficile, sans tirer de conclusions susceptibles de les handicaper plus tard. C'est-à-dire que, disons, à condition égale, il y en a un qui va dire « on m'a jamais aimé, personne ne m'aimera jamais, j'ai jamais eu d'affection, j'ai pas eu à manger, c'est pas juste, on me doit, etc. » Enfin, tu vois, tout ce genre d'interprétation qui bien entendu n'aident pas l'adulte à se réaliser dans la vie. Et puis d'autres, bah, ils n'ont pas eu à bouffer, ils n'ont pas eu d'affection. Moi, j'ai un oncle, quand j'ai lu cette histoire de résilience, j'ai pensé à mon oncle. Ma grand-mère a eu 8 enfants, elle est morte en couche en mettant au monde le dernier, qui est l'oncle en question. Il a été, alors la sœur de mon grand-père a pris le gosse, et lui, il était tout petit, il a été mis en nourrice. Donc il a été mis en nourrice, on l'a changé de nourrice, après ça on l'a mis aux enfants de troupe, après les enfants de troupe, il a été à l'armée, après il est sorti de là, il s'est marié, etc. Il a eu lui-même 6 enfants. Il était gay, sympa, adorable. C'est de lui que j'ai reçu le plus, certainement. Il était honnête, simple. En plus, attends, il vivait dans une... C'était pas misère, j'exagère. Mais c'était le strict nécessaire. Moi, c'est là que j'ai passé mes plus belles vacances. Mais bon, c'était pas le luxe, mais c'était des gens bien, c'était des gens sympas. Et lui, bah, il en voulait à personne. Et il était heureux. Avec sa femme.
Je croyais qu'il y avait une forme de réconciliation. Alors en fait, c'est pas ça.
Non, il s'était pas réconcilié. Il n'avait pas de mal à dire. Je ne l'ai jamais entendu dire du mal de la façon dont il avait été traité, petit.
On ne sait pas par où ça passe.
Non. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qui a fait que ça s'est bien passé ? Alors il a peut-être eu du bol. Peut-être qu'il est tombé sur une nourrice gentille. Mais.
Oui, c'est qu'il y a un moment, il y a un tuteur. Il y a un tuteur, c'est ce que tu dis.
Oui, mais les enfants de troupe, ils étaient allés très tôt. Les enfants de troupe, à l'époque, je peux te dire.
Oui, c'était pas de la rigolade.
Non, c'était pas de la rigolade.
Et puis, c'est pas le fait de ne pas en dire du mal. C'est-à-dire que tu peux très bien, si quelqu'un t'a.
Il ne pas du mal. Il s'en foutait, je ne sais pas. En tout cas, je suis en train de définir la résilience. Je
vais
vous donner un exemple de résilience. Je ne sais pas pourquoi. Ce que je sais, il ne m'a rien expliqué, puisque de toute façon, il n'en parlait pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'avait aucune des manifestations pathologiques que peuvent avoir le genre de personnes qui ont vécu cette enfance-là. Voilà, c'est ça. Et il expliquait le vilain petit canard, etc. Les gamins qui ont... Alors oui, il y a aussi ce concept du vilain petit canard qui est intéressant, qui est l'enfant arrive dans un monde qui est épouvantable, mais il a conscience que c'est une erreur. C'est comme le vilain petit canard, il est un signe. Quelque part, il sait qu'il est un signe. Donc, c'est transitoire. Un beau jour, il y a un vol de signes qui va arriver.
Mais ça, c'est quand même incroyable. C'est ça qui est incroyable. Est-ce qu'on dit qu'en général, quand même, cette assise en soi-même, cette confiance en soi, etc., elle est donnée.
C'est vrai à 98%. Mais bon, il y a ces cas.
D'être celui qui avait tué la mère.
Oui, en plus, exactement.
Oh, quelle vie.
Tout à fait.
C'est par toi que ta mère elle est morte.
Oui, c'est arrivé à ma mère. Elle a eu toute son enfance.
Ça m'est venu à l'esprit. Parce que pour moi, à la limite, c'est le grand-père, c'est son mari qui l'a tué. Parce qu'il savait très bien...
Qu'un enfant de
plus. Oui, parce qu'elle faisait des phlébites. Et on lui avait dit, si elle a un autre enfant, si elle a d'autres enfants, parce que ça faisait 3-4 fois déjà que c'était tangent. Non, mais lui,
il aurait pu choisir de
il dire
c'est
pu
la
choisir
faute de mon père aussi, pas la mienne.
Oui, il aurait pu dire c'est la faute de mon père.
Et il n'a rien choisi du tout.
Enfin. Et apparemment, le grand-père, il ne s'est pas non plus dit que c'était de sa faute. Hein. Il a pensé que Dieu avait rappelé sa femme à lui. C'est comme ça. Et puis les enfants, à l'époque, la contraception, ça n'existait pas. Et puis même, c'était peut-être même pas bien. Il fallait prendre tous les enfants que Dieu t'envoyait.
Hein. Il y a un beau livre d'Alice Fernet qui s'appelle L'élégance des veuves, hein, qui raconte ça. Et exactement, une femme qui va mourir de faire trop d'enfants.
C'est horrible.
Et le médecin avertit à un moment le père, dire